Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais qu'on regarde un verset ou deux dans Hébreux 9, Hébreux chapitre 9. Et ça concerne le lieu saint et le lieu très saint. J'ai déjà parlé sur le lieu très saint il y a quelques mois, sur les objets qui se trouvaient dans l'arche. Et ce matin, je vais reprendre un peu ces objets, mais je vais les utiliser autrement et je vais prendre aussi les objets du lieu saint. Donc voilà, peut-être Emmanuel, si tu pouvais lire, ça ne dérange pas, de lire du verset 1 au verset, ouais, verset 5. Voilà, oui, si c'est volontiers, merci. Hébreux 9, 1 à 5.
La première alliance avait aussi les ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le voile, le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus.
Merci. Voilà. Alors moi, je vais profiter de parler un peu plus en détail là-dessus, en suggérant certaines choses. Est-ce que vous avez remarqué les trois objets qui sont dans l'arche? Donc, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, la manne et les tables des 10 commandements, sur lesquels étaient écrits ou gravés les 10 commandements. Eh bien, ces trois objets sont un témoignage. Ils sont dans le lieu très saint. Ce lieu très saint, c'était derrière le voile. Le souverain sacrificateur n'avait accès qu'une fois par an dans ce lieu très saint. Avec du sang qu'il pouvait amener, il devait se sanctifier, se préparer. Et c'était le témoignage pour Dieu de certaines choses. Parce que personne ne le voyait, cette arche, quand c'était dans le lieu très saint. Il n'y avait que Dieu, la présence de Dieu qui pouvait voir cette arche, ces objets qui étaient dedans. Dedans. Et donc, quel témoignage ça apportait à Dieu? Eh bien, j'aimerais juste considérer un à un rapidement ces trois éléments avant de passer aux trois éléments qui sont dans le lieu saint. Le premier élément, c'est le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Eh bien, c'était un témoignage terrible au fond concernant l'humanité, concernant les hommes. Puisque si ce bâton avait fleuri, c'est parce qu'il y avait eu de la contestation. C'est parce qu'il y avait eu de la rébellion. Et ce bâton était le souvenir, le témoignage de cette rébellion, de cette contestation. Rappelez-vous, dans le désert, il y avait eu des miracles qui s'étaient passés, la mer rouge qui s'était ouverte, etc. La manne du ciel, l'écaille, etc. Des choses extraordinaires qui s'étaient passées. Et puis, à un certain moment, Corée, Dathan, Abiram se sont dit, non, ce n'est pas, il n'y a pas que Aaron, il n'y a pas que Moïse qui sont saints, nous sommes tous saints. Et comme nous sommes descendants de Lévite, nous aussi, nous pourrions diriger le peuple. Et ils ont commencé à contester. Et Dieu s'est fâché contre le peuple. Dieu était irrité et il a voulu détruire le peuple d'Israël à cause de cette attitude. Je pense que ça fait partie des attitudes les plus détestables pour Dieu. Cette attitude de contestation, de non-soumission à ce que Dieu avait décidé pour le peuple. Et donc, il y a eu quelque chose de terrible qui est arrivé à Corée, Dathan et Abiram. Et après, Dieu a demandé à chaque responsable de tribu d'amener un bâton. Et le bâton qui serait miraculeusement régénéré, eh bien, serait désigneré celui que Dieu a choisi pour le sacerdoce. C'était le bâton d'Aaron. Un miracle extraordinaire parce qu'un bâton qui est mort, qui commence à produire la vie. Donc c'était le témoignage, le souvenir pour Dieu de la rébellion, de la contestation, de l'insoumission du peuple. Mais c'était aussi le témoignage de sa grâce, parce que le fait que ça fleurisse, c'était la grâce de Dieu, parce que il y a eu un intercesseur qui était Moïse, et Dieu a fait grâce au peuple. Il n'a pas détruit tout le peuple. Mais retenez que ce bâton a fleuri. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'homme ne pouvait pas faire ça. On va voir ce qui concerne l'homme, donc du côté du lieu saint. Oui, ben je vais tout de suite le prendre. On l'a lu tout à l'heure. Il y a du bois aussi dans le lieu saint, mais c'est une table en bois d'acacia. Et elle est travaillée selon un modèle donné par Dieu. Elle est travaillée, elle est formée d'une certaine façon. Il devait se conformer à ce que Dieu avait choisi. Et voilà, c'est une table toute simple. Il a fallu travailler, il a fallu la plaquer d'or. Ça, c'est du côté de l'homme, ce que Dieu demande à l'homme, ou demandait à l'homme sous l'Ancienne Alliance. Et Dieu, du côté de Dieu, dans le lieu saint, vous savez, dans le lieu très saint, vous savez que c'était séparé par un voile. Eh bien, il y a un bâton aussi, il y a du bois aussi. Mais c'est du bois qui servait à marcher. C'était une canne, un grand bâton qui servait. C'est extraordinaire ce bâton, parce que je pense qu'Aaron a dû le trouver un jour en disant « Tiens, ça serait vraiment bien pour m'aider à marcher. » Et ce bâton ne savait pas qu'il deviendrait célèbre, extraordinairement célèbre, qu'il avait été choisi par Dieu pour un rôle extraordinaire. Et voilà que ce bois tout simple, sans valeur, sans travail, non raffiné, il ne nous est même pas dit de quel type de bois il s'agissait. Pour la table, on sait que c'était du bois d'acacia. Mais pour le bâton d'Aaron, on sait. C'était du bois d'acacia. Ah, d'accord. D'accord. Bon, ben voilà. Alors, en tout cas, c'est un bois qui n'avait pas été travaillé par l'homme, ou juste peut-être adapté pour que ça serve à la marche. Et Dieu a fait un miracle là-dessus. Et je vois là quelque chose d'extraordinaire. C'est que on peut être dans le lieu saint depuis des années. On peut avoir été travaillé. On peut avoir été formé. On peut avoir suivi les instructions qui ont été données très clairement de comment il faut être. Mais on n'a pas de miracle qui s'est produit dans la vie. On est resté ce qu'on était. On est resté un bois qui est maintenant mort, même si le bois d'acacia reste dur pendant des siècles ou des années. En tout cas, ça résiste beaucoup au temps. Mais voilà qu'à la fois, donc, dans ce bâton, il y a le témoignage pour Dieu de l'insoumission, de la contestation du peuple, mais aussi de sa grâce, du miracle de la résurrection, de la régénération, régénérescence que Dieu veut faire dans les vies. Mais on va voir que c'est même pas suffisant, que c'est miraculeux, mais ce n'est pas encore le miracle suprême. Ce n'est pas encore le lieu très très saint, parce qu'il y aura encore quelque chose de plus grand qui va se passer. Et l'autre point que j'aimerais souligner sur ce bâton, c'est que ça rappelait aussi à Dieu qu'il y avait un voile qui avait été enlevé des yeux du peuple. Ce voile, c'était qui a été enlevé, c'était la révélation de qui Dieu avait choisi. Et ça a été quelque chose de très très clair pour le peuple. Le peuple, je crois, après cela, a hésité à contester. Ils se sont plaints, on le verra, mais ils ont hésité à contester l'autorité d'Aaron. Il y a eu un voile qui a été ôté. Le deuxième objet dans l'arche qui se trouvait, on l'a lu, c'était la manne, n'est-ce pas? Ce miracle de Dieu. Mais là, c'était le témoignage du murmure, de la plainte. Parce qu'il nous est dit, surtout concernant l'écaille, que le peuple s'est plaint, n'est-ce pas? Et Dieu a été extrêmement affecté par le fait que le peuple se plaigne. Et donc, il a envoyé l'écaille, mais il a envoyé la destruction aussi, il a voulu détruire. Et là aussi, c'était l'intercession de Moïse et la grâce de Dieu qui a cessé la destruction du peuple. Et donc, ce pain, cette manne, est un témoignage extraordinaire pour Dieu, de sa grâce, du fait qu'il a répondu à la prière de celui qui intercède. Mais aussi, c'était le témoignage de ce que l'homme a fait, du murmure, de la plainte. Et sachez, rappelez-vous que lorsque vous contestez ce que Dieu a choisi, lorsque vous vous plaignez, vous êtes en train de cibler les deux symboles dont il est question là. Vous êtes en train de toucher à des choses qui ont marqué le cœur de Dieu, qui ont été dans le souvenir très clair, dans sa présence, qui sont dans sa présence, de ce que le peuple et ce que les gens, les hommes et les femmes font. Et ça doit nous faire réfléchir à ça. Parce que cette plainte, Dieu ne la supportait pas. Mais dans sa grâce, il a quand même envoyé la nourriture, il a envoyé le pain. Et la manne était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Comment l'homme pourrait-il faire pleuvoir de la manne? Ce que l'homme pouvait faire, c'était les pains de proposition, qui se trouvent de l'autre côté du voile, du côté du lieu saint. Il avait été dit à Moïse et à Aaron de faire des pains de proposition, des pains qui étaient là, sur la table, dans le lieu saint. Et il devait les poser en deux piles de six. Et seuls les prêtres, seuls Aaron et ses fils pouvaient manger de ces pains. Ces pains-là étaient fabriqués, mais Aaron, il avait la recette, il savait de quelle forme ça devait être, il savait de quel constituant il devait être formé, quel dosage. Mais il ne devait pas comprendre probablement pourquoi. Pourquoi Dieu me demande de faire des pains et de les mettre sur la table? Le problème, c'est que nous, on se dit pourquoi Dieu me demande ça, donc Dieu ne me demande pas ça, parce que je ne comprends pas. Donc il n'y a pas de logique, donc je ne le fais pas. Moi, si je ne comprends pas, je ne le fais pas. On est bien français, n'est-ce pas? On croit à ce qu'on voit et on fait ce qu'on comprend, ce qui nous semble rationnel. Mais voyez le symbole extraordinaire et l'équivalent qu'il y avait de l'autre côté du voile. L'autre côté du voile, il y avait la manne miraculeuse que l'homme ne peut pas faire, beaucoup plus simple que ces pains de proposition travaillés, formés d'une certaine manière. Voilà ce que l'homme pouvait faire, ce que l'homme devait faire, selon des rites que Dieu avait instauré. Mais si Aaron n'avait pas fait cela, bien sûr, il aurait été jugé par Dieu. Mais c'était tout un symbole, parce que vous devinez bien sûr ce que représente le pain. Et le miracle le plus glorieux qui va se passer, qui va faire que la manne va paraître rien par rapport à cet autre pain. Donc cette manne était le témoignage, effectivement, de ce que l'homme a pu faire encore, de murmurer contre Dieu, de se plaindre, alors qu'ils avaient vu la délivrance, alors qu'ils avaient souffert en Égypte, d'avoir oublié cette souffrance et de dire « voilà, c'était mieux avant ». On avait à manger là-bas en Égypte. C'était à peu près la seule chose qu'ils avaient, semble-t-il. Mais c'était le témoignage pour Dieu de sa grâce. Vous méritez d'être détruit, mais au lieu de vous détruire, je vous donne du pain à manger. Au lieu de vous détruire, je vous donne ce que votre cœur désire, ce que vous demandez. Troisième objet, c'était les tables des commandements qui étaient dans le lieu très saint, dans l'arche. C'est pas que Dieu avait besoin des tables pour voir ce qu'il avait écrit dessus avec son propre doigt. Mais c'était le témoignage de la désobéissance de l'homme et de la grâce que Dieu a donnée par la loi. Quelque chose d'extraordinaire que Dieu a donné pour conduire le comportement de son peuple, pour sanctifier, pour mettre à part son peuple. Et il y avait ce rappel, mais il y avait aussi le fait que ça pointait vers le voile qui avait été ôté, n'est-ce pas? Parce que Moïse, lorsqu'il était en la présence de Dieu, il enlevait le voile, et quand il descendait, il devait mettre le voile. Et ces commandements aussi étaient la révélation de ce que Dieu voulait pour le peuple. C'était une révélation, c'était un voile qui était ôté, n'est-ce pas? Et ça se passe juste devant le voile du tabernacle, du temple, du tabernacle à l'époque. Juste devant cette séparation entre le lieu saint et le très saint. Les 10 commandements étaient dans l'arche, comme la loi de Dieu doit être dans nos cœurs, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, il y avait une table, comme on l'a vu, et il y avait une lampe, il y avait un chandelier. Le chandelier était travaillé. Vous avez la description dans Exode, vous avez la description dans Lévitique de comment c'était travaillé. Là aussi, pourquoi? Il y avait les instructions sur le nombre de bourgeons qu'il devait y avoir sur le bâton principal. Bien sûr, ça nous rappelle le bâton qui était de l'autre côté. Le bâton qui était de l'autre côté dans l'arche, c'était des bourgeons miraculeux qui étaient nés, des vrais bourgeons pleins de vie, qui restaient en vie, qui restaient dans le même état. Et ici, c'était des bourgeons qui étaient travaillés par la main de l'homme. Il y avait ce chandelier, c'était pour recevoir des lampes. Et il y avait ce chandelier principal, vous savez, c'est le bâton principal, et les autres qui émergent de ce bâton principal. N'est-ce pas? Il y en a 6. Trois de chaque côté, et il y a le bâton central du chandelier. Chacun devait recevoir des lampes. Les lampes devaient brûler à l'huile d'olive raffinée. Il y a là aussi quelque chose qui parle, n'est-ce pas? Les 10 commandements étaient la lumière pour le peuple. Voilà comment vous devez marcher. Voilà comment vous devez... J'éclaire votre sentier, votre comportement, votre façon de vivre. Et de l'autre côté, il y avait ce chandelier travaillé qui servait à donner de la lumière dans le lieu saint. Mais bien sûr, on ne peut pas s'arrêter devant ces symboles comme ça, sans réfléchir à ce que ça veut dire et ce que le Nouveau Testament apporte de plus. Parce qu'il y a un autre lieu que le lieu saint et le lieu très saint. Il y a le lieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui est pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais peut-être que ce matin, vous êtes dans le lieu saint, vous connaissez l'expérience du lieu saint. Combien de gens connaissent seulement ce lieu-là? J'ai entendu, non pas ici, mais des chrétiens qui disaient, voilà, si tu as un problème, une situation dans ta vie, qui est difficile, eh bien, tu vas l'avoir jusqu'à ta mort. Il faut juste lutter jusqu'à ce que tu sois et rester vainqueur tout le temps pour ne pas pécher contre Dieu. Et j'ai dit à une de ces personnes, mais quelle est la différence entre le juif et le chrétien, si c'est ça le message de l'évangile? Est-ce que Dieu a dit à Alex, quand il l'a appelé, tu auras des problèmes de drogue toute ta vie. Il faudra lutter. Il faudra en prendre le moins possible au début. Et après, peut-être tu seras débarrassé, mais il faudra quand même lutter. Je crois à la puissance de Dieu qui libère. Et Dans l'ancienne alliance, oui, il y avait les luttes. Oui, il fallait lutter, il fallait travailler, il fallait que ce soit raffiné. Quand je lis le Lévitique, je ne peux pas supporter. Parce que je dis, moi, je pourrais pas, j'aurais pas pu tenir. Tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait ne pas faire, j'aurais pas pu. Et c'est là où on voit la sainteté de Dieu. Mais si vous voulez vivre dans ce système, alors il faut être parfait dans tous les domaines. Parce que c'est vous qui travaillez votre vie, qui travaillez le bois pour qu'il devienne une table, bien travaillée selon les instructions. C'est vous qui préparez la farine pour faire le pain exactement d'une certaine manière, pour plaire à Dieu, parce que Dieu l'a commandé. C'est vous qui faites, oui, le chandelier extrêmement raffiné, mais c'est vous qui le faites. Et maintenant, ce n'est plus les instructions de Dieu. Dieu ne dit plus de faire ces choses-là, parce que c'était un message prophétique, c'était quelque chose qui était en vue de la venue de Jésus-Christ. Ça voulait dire, ça représentait des choses de manière importante. Bon, d'autres chrétiens ont quitté ça, ils ont connu des choses extraordinaires dans leur vie. Ils ont vu qu'ils étaient morts, qu'ils ne servaient à rien, mais qu'ils ont connu cette vie qui a commencé à naître. Et ils ont un témoignage extraordinaire. Oui, je me suis plaint, oui, j'ai murmuré, oui, je me suis rebellé, parce que j'ai pas dit, mais les 10 commandements, c'était aussi le souvenir de la désobéissance. S'il y avait les commandements, c'est parce qu'il y avait la désobéissance. Parce que les gens n'étaient pas selon le cœur de Dieu, ne marchaient pas selon le cœur de Dieu. Et peut-être vous dites, oui, moi, ça y est, j'ai reçu la loi de Dieu, j'ai compris la loi de Dieu, je l'ai intégrée. J'arrive à vivre de manière satisfaisante la loi de Dieu. Oui, j'ai eu un miracle qui s'est passé un jour dans ma vie. J'ai eu ce miracle de la mort, je suis passé à la vie, il y a quelque chose qui a commencé à naître. Mais je suis dans le même état que j'étais lorsque ça s'est produit. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Parce que le bâton d'Aaron qui avait fleuri était dans le même état que lorsque ça s'était produit. Et donc, peut-être on est, oui, dans la présence de Dieu, on sent la présence de Dieu dans nos vies. Oui, on sent cette communion avec Dieu. On n'est pas dans le lieu saint. On a compris que le voile a été déchiré en Jésus-Christ et que Jésus est venu dans le lieu très saint, lui, le souverain sacrificateur, et il a présenté non pas un sang étranger, comme nous dit Hébreux, mais il a présenté son propre sang. Et c'est parce qu'il a présenté son propre sang, que le voile a été déchiré, qu'il y a eu un accès auprès du Père. Et peut-être vous avez bénéficié de ça. Peut-être vous pouvez témoigner, oui, je sais, moi j'ai rencontré le Père. Oui, il a changé radicalement ma vie. Il m'a donné la vie alors que j'étais mort. Il m'a donné les commandements de Dieu d'une manière toute spéciale. Je les ai intégrés, j'ai compris l'importance. Avant, dans le monde, je ne comprenais pas. Avant, dans le monde, ça ne me posait aucun problème de faire telle et telle chose. Et j'ai pris conscience de la loi de Dieu. J'ai reçu de Dieu les 10 commandements. J'ai reçu de Dieu ses instructions, ses commandements. Et peut-être vous dites, oui, quand je lis la parole, ça me nourrit. C'est de la manne pour moi spirituellement. Ça me nourrit. Vous avez là le témoignage que vous avez bénéficié de la mort de Jésus et que vous êtes passé dans le lieu saint. Mais il manque quelque chose. Il manque encore quelque chose. Et c'est le message de l'Évangile, le message de Jésus-Christ. C'est quelque chose encore plus haut que cela. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Voyez le pain qui était mis là. Probablement Aaron s'est dit, mais pourquoi? Moïse s'est dit, mais pourquoi il me demande de mettre du pain? Pourquoi il y a... Et je crois en plus qu'il y avait de l'encens qui était mis dessus, et c'était Aaron et ses fils qui devaient manger, eux seuls. Ils devaient manger dans le lieu saint. Ils ne devaient pas le prendre à l'extérieur. Ça devait être étrange, n'est-ce pas? Mais c'était une prophétie. Non pas de la manne, parce que la manne, ils la connaissaient. C'est la prophétie du pain de vie de Jésus-Christ. Et quand les pharisiens ont dit à Jésus, mais nos pères, quel signe fais-tu dans Jean chapitre 6? Parce que nos pères dans le désert ont vu la manne qui est descendue. Jésus leur a dit, si je paraphrase bien, eh bien ce n'est pas le pain du ciel qu'ils ont reçu. C'est du pain venant du ciel, mais ce n'était pas le pain du ciel. Je suis le pain de vie. Quand il a pris le pain lors de la Sainte Cène, il a brisé, il a dissocié mon corps. Et le pain de vie veut venir habiter en vous. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il ne s'agit pas de l'attente de la rencontre seulement, comme dans l'Ancien Testament. De la rencontre avec Dieu ou de la rencontre avec le lieu saint. Il s'agit de l'attente de cette communion où on vit en communion avec Jésus-Christ, où Jésus-Christ vient habiter en nous. Ça, c'est pour le pain de vie. C'est pour le pain qui était fabriqué dans le lieu, qui était mis dans le lieu saint, la manne qui était dans le lieu très saint, et Jésus-Christ qui est le voile déchiré. Parce que Hébreux nous dit que c'est au travers du voile de sa chair, n'est-ce pas, qu'il s'est présenté devant Dieu avec son propre sang. C'est lui qui est le pain de vie. Est-ce que vous pouvez dire Jésus vit en moi? Non pas, est-ce que je suis conforme, j'ai fait des efforts religieux, j'ai fait des efforts pour obéir à Dieu. Seigneur, tu vois mes efforts. Oui, Dieu le voit. Vous avez un exemple extraordinaire dans Corneille. Quand vous voyez la description de Corneille, je paraphrase Norman ici, quand vous voyez la description de la vie de Corneille, il y a très peu de chrétiens qui vivaient ce qu'ils vivaient. Et pourtant, il est dit que c'est seulement quand Pierre est venu le voir qu'il a été sauvé. Il n'était pas sauvé. Mais c'est un homme qui craignait Dieu, qui avait fait des choses pour Dieu, n'est-ce pas ? Il avait respecté la personne de Dieu, il avait respecté les instructions de Dieu, ce que Dieu désirait. Et il avait fait ces choses, artistement travaillé. Mais il n'était pas sauvé. Il y a d'autres personnes qui ont fait des expériences, même l'expérience d'une vie nouvelle. Je le crois que des gens font une expérience d'une vie nouvelle, mais ils ne vivent pas cette communion avec Jésus quotidiennement, où Jésus vit en eux, Jésus réagit pour eux, Jésus conduit leurs pensées, Jésus conduit leurs actions, leurs décisions, leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, leur façon de voir. Ils sont dans l'expérience de la rencontre qu'ils ont faite, qui a marqué leur vie. Ils peuvent témoigner des bourgeons, des fleurs, qui sont apparus alors qu'ils étaient morts. Mais ils ne peuvent pas dire, voilà, je sais que Jésus vit en moi. Mais c'est ça l'évangile. Les commandements de Dieu étaient dans l'arche, les deux tables des commandements. Et il y a certaines personnes qui essayent dans le lieu saint, qui essaye de faire la volonté de Dieu, d'obéir à ses commandements pour le plaire, pour lui plaire. Il y a ceux qui ont été dans cette rencontre avec Dieu au travers du voile déchiré, qui ont compris que Dieu leur a donné pour eux les commandements. Ils ont reçu les ordonnances de Dieu. Ils ont dit, mais oui, je comprends que ça c'est mal. Tu me révèles, tu enlèves le voile, tu déchires le voile. Ce quelque chose que je savais avant, mais maintenant je le sens réellement, n'est-ce pas, David ? Savait très bien que l'adultère était quelque chose de grave. Quand il a commis l'adultère, il n'a même pas vu, semble-t-il, qu'il avait commis un meurtre et un adultère. Il vivait très bien après ça. Et Dieu lui a révélé ses commandements, il lui a montré, voilà. Voilà ce que tu as fait. Et c'est comme s'il était rentré dans le lieu saint, dans le lieu très saint, et que Dieu lui avait dit personnellement, voilà, rappelle-toi mes commandements. C'est pour ça qu'il a pleuré, c'est pour ça qu'il a été transformé. Mais il avait besoin de quelque chose de nouveau, il avait besoin que Jésus vive dans sa vie. Et on a tous besoin de ça, n'est-ce pas? Que dit Dieu dans Jérémie 31 et dans Ézéchiel, on retrouve ça. Je graverai mes commandements dans leur cœur. Et ça, c'est la présence de Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et quand vous avez Jésus qui vit en vous, vous avez l'accomplissement de la loi qui se fait en vous. De sorte à ce que quelqu'un qui a vraiment fait cette rencontre avec Jésus et qui a Jésus qui vit en lui n'a pas besoin de connaître les 10 commandements. Il va les connaître parce qu'il va forcément lire la Bible, mais il n'a pas besoin de les connaître. Il va commencer à l'appliquer avant de savoir que c'est là. Vous prenez n'importe qui sur la terre qui n'a aucune connaissance de la Bible, de la parole de Dieu, c'est-à-dire un des meilleurs endroits, c'est la France. Si on demande à des Français dans la rue maintenant les 10 commandements, c'est quoi ? Ils vont dire, ah, je crois que c'est un film qui a été tourné dans les années 60. Ou c'est une comédie musicale. Mais si un Français fait cette rencontre comme Saul de Tarse a fait avec Jésus-Christ, eh bien, Jésus vient habiter dans sa vie et il commence à obéir aux 10 commandements. Et ensuite, il arrive à Exode 20 et il dit, tiens, c'était écrit. J'ai pas dû faire d'effort pour obéir parce que les commandements de Dieu étaient en moi. Parce que celui qui accomplit les commandements de Dieu, c'est celui qui vit et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La manne, le bâton et les commandements de Dieu, ça symbolise quelque chose d'extraordinaire, mais ça pointe vers le voile qui va être déchiré avec la mort de Jésus-Christ pour quelque chose de plus grand encore. Le dernier élément, c'est la manne, le pain. Est-ce que nous sommes encore en train de le fabriquer pour plaire à Dieu? Ou est-ce que nous pouvons dire « Oui, il m'a nourri » Où est-ce que nous avons goûté le pain de vie qui est Jésus-Christ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et ce matin, ce que j'aimerais puisse ressortir de ce message, c'est ce désir que Jésus vive dans notre vie. Et pour ça, ça veut dire de lui laisser la place, d'enlever ce qui prend la place et de dire « Oui, Seigneur, moi je veux maintenant vivre de ta vie. » Je voudrais connaître ce que l'apôtre Paul a connu. Ça demande une reconnaissance de quelque chose. Ça demande qu'on reconnaisse qu'on n'a pas connu cela. Encore. Et il n'y a rien d'honteux de dire qu'on n'a pas reconnu ça. C'est noble d'être dans le lieu saint. C'est noble d'avoir accepté la mort de Jésus, le fait que le voile soit déchiré pour dire « Voilà, j'ai le droit d'aller, moi, dans le lieu très saint, la rencontre de Dieu. » Si c'est ça notre expérience, c'est déjà extraordinaire. Mais est-ce qu'on est prêt sur la terre à vivre la vie de Jésus-Christ au point de pouvoir dire « Oui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et ces choses vont se manifester. Le pain venu du ciel, Jésus-Christ, va nous nourrir. Et nous allons venir aussi le pain pour le monde, parce que le monde a faim. Et ils vont manger de nous, et en mangeant de nous, ils vont dire, ça a le goût de Jésus-Christ, c'est bon. Et quand ils vont voir qu'ils peuvent connaître Jésus-Christ pour eux, ils vont le prendre pour eux. Lorsqu'ils vont voir que ce n'est pas seulement une question de bâton régénéré qui commence à fleurir, mais que c'est une histoire de vigne. Parce que Jésus a dit, oui, je suis le pain de vie. Il a dit aussi, je suis le bois. Ça, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit, je suis la vigne, je suis le cep, dans Jean chapitre 15. Que ce n'est pas une histoire de quelque chose qui a bourgeonné une fois et qui reste pour toute la vie en souvenir, mais qu'il s'agit d'un bois qui est attaché, qui ne paye pas de mine. Il est tortueux, n'est-ce pas, comme on a lu, comme tu as mentionné dans Jérémie 17. Le cœur de l'homme est tortueux. Ben voilà, le cœur, l'aspect de la vigne, c'est quelque chose de tortueux, les branches. Mais ils sont attachés au cep. Et ce n'est pas qu'ils portent juste des bourgeons, c'est qu'ils portent du fruit. C'est ça le message de l'Évangile. C'est plus que ce qu'il y avait dans l'arche. L'arche, on ne la trouvera jamais. Elle a disparu, c'est écrit dans Jérémie, qu'elle ne sera plus trouvée. Ceux qui cherchent, là, il y a des films là-dessus, ils cherchent l'arche, ça ne sert à rien. Ils peuvent chercher, laissons-les chercher. C'est comme ceux qui cherchent la vie dans l'univers. Laissons-les. La vie se trouve en Jésus-Christ. Je suis la vie. Et si la vie est apparue sous ce bâton mort, c'est parce que c'était une prophétie de celui qui allait être la vie, qui va donner la vie. De sorte à ce que votre chandelier va commencer à porter la lumière également. Mais pas une lumière que vous devez entretenir, parce qu'il devait toujours entretenir la peur d'oublier. Seigneur, j'ai oublié. J'ai oublié d'allumer ce soir la lampe. C'était terrible s'il oubliait. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui vient parce que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Donc ce n'est plus un chandelier travaillé artistement que vous avez dans vos vies. Ce n'est plus des commandements qui sont donnés, c'est Jésus lui-même qui est la lumière, qui est le pain, qui est le cep, qui vous donne cette possibilité de vivre quelque chose de très très saint. Alors, c'est à nous de l'accepter ou c'est à nous de le refuser, comme il a été dit. J'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives.